Bienvenue sur Point de sauvegarde, le podcast jeux vidéo de la médiathèque Boris Vian de Chevilly-Larue, présenté par Blaise, Franck et Marie. Chaque mois, ou plus si affinité, nous vous partageons nos expériences sur un jeu vidéo présent à la médiathèque. Bonne écoute et n'oubliez pas de sauvegarder. Bonjour Blaise.
Salut Marie.
Et uniquement Blaise, vu que Franck est en vacances.
Ah ouais, ouais, ouais.
Il nous abandonne pour un épisode...
Un voyage, ouais.
Un épisode... Oh, j'allais dire un truc ultra youtubeur. Pas un épisode spécial,
un
mais...
Exceptionnel.
Exceptionnel. L'épisode numéro 12, du podcast
ça... ouais,
Point de sauvegarde.
Un an,
joyeux anniversaire au podcast et à nous. Pour cet anniversaire de podcast à deux, on va parler d'un jeu qui est encore sorti sur PlayStation. Enfin, chez PlayStation. Sur Sony, ouais, sur
PS4.
Pas coutume, hein. Une fois n'est pas coutume, on n'est pas sponsorisé par eux, je commence vraiment à me poser des questions sur le fait qu'on ne parle que de leur jeu, il va falloir qu'on en discute tous ensemble. Et puis on va voyager un petit peu, parce que Franck est parti en vacances sans nous, du coup on a décidé qu'on allait voyager aussi.
De notre côté.
Et nous on va partir au Japon, parce que nous allons vous parler de Ghost of Tsushima, un jeu vidéo qui est sorti en juillet 2020 sur PS4. Et depuis, il a eu droit à une version Director's Cut, encore un qui a droit à cette fameuse version-là, et à laquelle je ne jouerai pas, parce que, franchement, la flemme de refaire
le
jeu.
C'est la classe, avant, il y avait les Game of the Year Edition, Platinum Collection, et maintenant, c'est Director's Cut.
Ouais, mais est-ce que les Game of the Year, ils rajoutaient des trucs dans le jeu?
Bah, généralement, c'était une version avec les, tu sais, toutes les...
Ah oui, avec tous les DLC.
Complètes, quoi.
Ouais.
Donc là, c'est juste un petit... Alors, c'est quoi? Le DLC, c'est une île en plus, je crois.
Ouais, c'est
un
ça.
Une petite zone de jeu en plus. Ouais.
C'est une petite zone de jeu en plus à laquelle je n'ai pas joué pour diverses raisons. La première, c'est que j'ai la flemme, et la seconde, c'est mon avis sur le jeu qui a fait que j'ai pas eu envie de, mais je vais pas aller trop vite
plus.
En besogne. Donc, jeu sorti en juillet 2020 sur PS4, et puis sa Director's Cut en août 2021 sur PS4 et sur PS5, car entre juillet 2020 et août 2021, une nouvelle console est apparue dans le monde vidéoludique.
PS5 est sorti des buissons, ouais.
Ouais, c'est
enfin,
ça.
Pas pour tout le monde
c'est
encore,
un peu...
mais bon,
c'est un peu comme les Pokémon
bon.
Shiny, ça existe, ouais. Mais tout le monde n'en voit pas.
Ouais.
C'est un jeu qui a été développé par Sucker Punch. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure en monde ouvert, des termes normalement que vous connaissez si vous avez écouté les 11 épisodes précédents. Mais comme je suis gentille, je vais au moins rappeler ce qu'est le monde ouvert. C'est un concept de level design dans lequel le joueur a la possibilité de parcourir librement un monde virtuel en ayant les moyens d'agir sur plusieurs facteurs, tels des objets ou autres éléments du décor. Et comme rendons à César ce qui est à César, c'est vraiment pas moi qui ai inventé cette définition, j'ai pris la définition de Wikipédia qui est sortie en premier. Voilà
ouais,
pour
ouais,
moi.
Donc un monde ouvert, et je trouve un monde ouvert qui... malgré le fait qu'il est sorti maintenant il y a 3 ans, je trouve... reste quand même un bon élève de ce qu'est je trouve de ce qu'est le monde ouvert et l'immersion, mais ça on va en parler.
Du coup, maintenant que j'ai un petit peu présenté le jeu dont on va parler, avant ça on va quand même faire un petit historique du studio. Et enfin un petit historique, mais l'histoire du studio étant assez longue.
Ouais, assez riche, ouais.
Assez riche, on va pas se mentir. Enfin, on va alterner, Blaise, toi et moi, pour en parler. Je te laisse commencer.
Ouais. Donc, Sucker Punch, c'est un studio fondé en 1997, donc qui est le studio derrière donc le personnage de, enfin le personnage et les jeux Sly Cooper. Donc, comme on disait juste avant, qu'on coupe pour.
C'est bizarre parce que.
Qu'on coupe pour des raisons de je n'arrive plus à trouver mes mots.
Bon, allez. Donc Sly Cooper, et c'est un personnage que tout le monde peut reconnaître. C'est un personnage assez connu, qui est un espèce de petit raton laveur cambrioleur avec le masque, un petit béret, je crois. Enfin, vraiment gentleman cambrioleur raton laveur qui est un personnage assez cool. Donc ils sont derrière Sly Cooper, ils sont derrière la série de jeux aussi Infamous. Qui est un peu plus récente parce qu'elle est sortie sur PS4, et plus récemment du coup encore Ghost of Tsushima, dont on va parler aujourd'hui, et qui fait partie, enfin Sucker Punch fait partie maintenant depuis Ghost of Tsushima des PlayStation Studios, dont on a déjà parlé avec Horizon Zero Dawn et avec Naughty Dog pour ce qui est de Uncharted et The Last of Us.
Ouais, donc comme tu le disais, ça a été fondé en 97, plus exactement aux États-Unis, ce dont on pouvait se douter avec le nom, et par 6 anciens de Microsoft. Donc il va sortir son premier jeu en 99, Rocket Robot on Wheels, dont wow. je n'avais jamais entendu parler avant wow. de faire ses recherches pour ce podcast. Je pense que le nom est assez explicatif.
Ouais, de ce voilà. que c'est, ouais. C'est bien, c'est descriptif, quoi.
C'est une fusée et des robots sur roulettes, j'imagine. J'ai même pas cherché des images. Tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu de plateforme plutôt bon. Et même s'il est peu connu, il a quand même eu des bonnes critiques, en fait. Et qui était sorti exclusivement sur Nintendo 64, ce qui, je trouve, assez, drôle quand on sait qu'ensuite le studio va être acheté par PlayStation,
par
les PlayStation Studios. Et donc même si le jeu, comme je disais, il est assez méconnu du grand public aujourd'hui, ben la jeune équipe de Sucker Punch, elle s'était déjà bien préparée avec ce jeu pour la suite des aventures qui les attendaient.
Donc, quelques années plus tard, en fait, du coup après le fameux Rocket Robot on Wheels, Sucker Punch débarque avec un deuxième titre. Donc cette fois édité directement par Sony. Bienvenue à Sly Cooper dans le monde. J'ai pas bien lu.
T'es pas obligé de lire mes blagues, tu sais.
Je pensais que le jeu s'appelait Bienvenue à Sly Cooper. Donc je m'arrangerai, je comprends. Donc cette fois édité par Sony. Donc Sly Cooper sorti pour la première fois en 2002. Sly s'est rapidement imposé comme une des très nombreuses mascottes de la PS2, et comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est pour ça qu'il est assez assez connu, quoi. C'est qu'il fait partie un peu des personnages qu'on voyait tout le temps dans les pubs, sur les affiches, bien qu'on ait jamais joué au jeu. C'est un personnage un peu iconique de la Play 2. Donc il y aura plusieurs jeux, donc 3 jeux proposant un gameplay alternant entre plateforme et combat, et le rythme est saupoudré d'infiltration, comme on peut imaginer avec un personnage évidemment cambrioleur.
Et un raton laveur en plus, parce que c'est discret, ces bestioles quand même.
Je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression que c'est des gros animaux, des animaux un peu gras qui vident les poubelles aux États-Unis, mais c'est tout ce que j'ai comme vie. Donc bref, peut-être que c'est les ratons laveurs des villes, quoi. Peut-être que
il y a une différence, je pense, entre les ratons laveurs de la campagne et ceux des villes, mais.
En tout cas, voilà, Sly Cooper, c'est un des grands jeux de la PS2.
Tout à fait, et si ça a permis au studio de se lancer, ils vont cependant pas se reposer sur leur laurier, ils vont quand même complètement changer de style suite à ça, et décider de développer des jeux d'action-aventure en mode ouvert, qui vont leur permettre de gagner une place majeure dans le monde du jeu vidéo. Et c'est comme ça que Infamous voit le jour en 2009. Alors personnellement, j'y ai absolument pas joué, je sais pas toi Blaise.
Je sais que alors Infamous le premier, pas du tout. Le deuxième, j'avais vu un petit peu, mais je trouvais le jeu il y a rien qui m'attirait dans le jeu. Donc malheureusement, j'ai pas du tout joué.
Donc donc il sort en 2009 et il s'inspire des comics du même nom. Alors là, c'est pareil, je savais pas qu'il y avait des comics.
Je pense que si Franck était avec nous, il nous dirait « Oui, bien sûr, ce comics est sorti dans les... »
Tout à fait, j'ai très hâte qu'il entende cette imitation de toi.
Oui.
Donc, le jeu s'inspire des comics du même nom. Et il tient aussi une particularité, c'est que nos actions vont influencer le personnage pour le rendre héros ou infâme, en fonction de nos choix.
Oui, il y avait ça. Il y avait une jauge bleue, une jauge rouge, et fonction de si tu faisais des bonnes actions, il y avait un système de karma.
Et ça me dit quelque chose. Alors, j'ai dû voir des gens y jouer, par contre.
Je crois que tu pouvais taguer la ville, et en fonction des couleurs des tags que tu mettais, ça devait gagner un truc. Enfin, bref.
Ouais, c'était ça. Ouais. J'y ai vu des gens y jouer. Moi, non, mais j'y ai vu des gens y jouer. Et donc, suite au succès du jeu, il va avoir droit à une suite en 2011, la même année où Sony les rachète et Sucker Punch devient PlayStation Studio. Et puis, pareil, un standalone la même année pour finir la saga des Infamous avec un jeu en 2014, qui a eu quand même une sacrée responsabilité parce qu'il a été annoncé le jour de l'officialisation de la PS4. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai réfléchi. Le jour de l'officialisation de la PS5, à quoi est-ce qu'on a eu droit? Et je crois qu'on a eu droit à Horizon Forbidden West.
Ouais, oui, il y avait eu Horizon, peut-être Returnal.
Peut-être Returnal.
Et Ratchet & Clank, je pense.
Ratchet & Clank. Et je me demande si on n'a pas eu des premières images de Spider-Man 2, mais là, je m'avance peut-être un petit peu.
Ou alors peut-être ou la version l'espèce de version remastered PS5.
Ah, peut-être ça, ouais.
Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que pour moi, je l'associe beaucoup à Ratchet & Clank et à Horizon Forbidden West, en
ouais.
fait.
Ouais, moi j'ai vraiment ce souvenir de d'être devant l'écran, d'entendre le, enfin de voir Horizon Forbidden West et de me dire waouh, de descendre, ouais. d'aller me servir à manger, à voir, ouais. de remonter, de voir waouh la PS5.
Ouais, bah, c'est la première fois qu'on la voyait et fouf.
Ouais, bah après le monde a changé. C'était dur de la voir ensuite parce ouais. que comme on le sait, acheter une PS5 ce n'est pas simple. Ouais, donc bon, pardon, je reprends. Infamous Second Son annoncé en 2014, en même temps que l'officialisation de la PS4, et le jeu a donc été considéré comme une démonstration technique de la console et a eu droit de ce fait à des ventes records. Apparemment, il a été vendu à plus d'un million en moins de 9 jours.
Ouais, c'est énorme pour un jeu pour autant aujourd'hui. Je sais pas, moi, j'ai aucun souvenir vraiment de ce jeu, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire des jeux qui sortent. En même temps que les consoles, tout le monde y joue au début parce que le jeu sort, et puis finalement, après, c'est pas forcément les jeux qu'on retiendra le plus. Donc, Sucker Punch ne s'arrête pas à Infamous Second Son, et à la Paris Games Week 2017, ils annoncent un nouveau jeu, donc prévu pour 2020, qui s'appelle Ghost of Tsushima, et le jeu est prévu pour être une sortie exclusive à la PS4, et avec ce nom et cette ambiance un peu japonaise, il tape aussi directement chez les fans un peu de jeux qui se passent dans un univers japonais, qui en plus a une dimension un petit peu historique, un peu à Assassin's Creed, dont il reprend aussi beaucoup les codes du monde ouvert.
Et puis une ambiance, je dirais, qui est quand même assez fantasmée par beaucoup de personne qui aime toute la culture japonaise, les samouraïs.
Oui, carrément.
C'était là, tu vas jouer un samouraï dans les années 1200.
Carrément, ouais.
Invasion mongole, enfin, il y avait beaucoup de choses.
C'est très, ça correspond beaucoup à un imaginaire, et on va en reparler dans la suite, mais c'est clair que c'était une très bonne idée, je pense, de taper à cet endroit-là dans le en termes de d'environnement historique. Quoi. Avoir décrit le studio Sucker Punch, on va vous parler un peu plus en profondeur du jeu, donc qui est un jeu qui a la particularité d'être placé historiquement et de raconter une histoire réelle, en tout cas qui s'est vraiment passée.
Tout à fait, le jeu nous plonge en 1274 dans la peau de Jin Sakai, un samouraï qui va tenter de repousser l'invasion mongole menée par Kublai Khan. Je suis vraiment désolée si je l'ai très mal prononcé.
Bah, je pense qu'il y a forcément une prononciation un peu plus...
très bon. Certainement, et vous savez quoi, je vais pas la faire. et donc, Kublai Khan, en fait, c'est dit dans le jeu, j'ai oublié, enfin... Pardon. qui, si normalement vous avez quelques connaissances, le nom de famille a dû vous dire quelque chose, et effectivement, c'est le descendant de Gengis Khan, vous avez envie.
Oui, oui.
Ouais, on dit comme ça. Ouais, non, j'ai. Enfin,
oui, enfin après, non, il y a sûrement une prononciation, une mais bon, ouais. on le fait comme à l'occidental, quoi.
Voilà. Donc dès le début, on se retrouve sur la plage de Komoda, c'est sur l'île de Tsushima, de toute façon.
Oui.
C'est
l'invasion de l'île, ouais. Donc ça commence sur une plage de l'île.
La géographie et l'histoire, moi, la précision et moi, c'est pas trop ça. Donc dès le début, on se retrouve sur la plage de Komoda pour affronter des Mongols. Qui vont se retrouver à être bien plus nombreux que les 80 pauvres samouraïs face à eux, pour les repousser. Jin se retrouve à être survivant de cette bataille, enfin de cette... je sais même pas si on peut vraiment appeler ça bataille.
Un massacre.
De ce massacre, ouais. Mmh. C'est beaucoup plus approprié comme terme. Et puis, lui, il est prêt à tout pour venger ses frères d'armes et sauver les quelques samouraïs encore en vie qui ont été faits prisonniers pour certains, et notamment son oncle qui l'a élevé. Mmh. Son oncle qui a été fait prisonnier. Les forces étant forcément inégales, Jin va devoir rompre. Va devoir. Il peut rompre le code d'honneur des samouraïs pour mener à bien la reconquête de l'île. Et de ce fait, aller moins vers le combat frontal et plus vers le combat discret. Devenant ainsi celui qu'on va renommer le fantôme de Tsushima. Ghost of Tsushima. Fantôme de Tsushima.
C'est le nom du jeu.
Incredible. Incroyable. tiraillé entre les valeurs des samouraïs qui, eux, vont plus être dans l'affrontement, effectivement, face à face.
Le code de l'honneur.
Le code d'honneur, tout ça, le fameux code d'honneur dont on va.
Puis la scène d'introduction du jeu montre bien comment les samouraïs se font juste massacrer par les Mongols parce que il y a un peu le côté, enfin tout ce qu'on peut imaginer des samouraïs qui ne vont pas utiliser la ruse pour défaire leurs adversaires, alors que a priori les Mongols en ont rien à foutre.
Exactement.
Et du coup les défoncent.
Mais le code d'honneur est plus important que tout. Donc tiraillé entre ses valeurs de samouraï et son envie de regagner sa liberté et celle de ses pères, le fantôme devient un véritable symbole de la résistance, allant jusqu'à s'allier avec des renégats méprisés des samouraïs habituellement, mais faut quand même sauver Tsushima, donc là on va un peu faire l'impasse dessus.
Rassembler un peu toutes les forces en présence qui souhaitent faire défaire les Mongols. Donc le jeu, en fait, c'est un, comme on disait tout à l'heure, c'est un monde ouvert, donc il va présenter comme souvent dans les mondes ouverts, des points à explorer, des ressources à collectionner, il y a une partie combat, une partie exploration,
mm-hmm.
avec une amélioration du personnage, de ses compétences, de ses de son équipement, de
ouais.
ses vêtements, des combats au sabre, mais pas que, parce que comme on disait, il y a une évolution du samouraï qui était djinn pour devenir un ninja un peu plus sneaky, disons en anglais,
un peu plus discret.
Ouais. Donc il y a tout un panel d'armes qu'on va pouvoir débloquer, comme des fumigènes
ouais.
pour disparaître, on a un arc évidemment, on a des shurikens aussi.
Ouais,
tout l'attirail un petit peu de ce qu'on pourrait imaginer plus d'un ninja que d'un samouraï. Mais en gros, on va alterner un peu entre les deux, avec des phases de gameplay plutôt infiltration, des phases de gameplay plutôt combat. Et le jeu va vous obliger en fait à alterner entre les deux. Le monde ouvert, du coup, qui est l'île de Tsushima en fait, qu'on va débloquer en trois parties.
Oui.
Donc on a en trois parties dans le jeu à chaque fois, on va débloquer une partie de l'île pour avancer petit à petit. La carte n'est pas ouverte complètement dès le début, on va les débloquer petit à petit. Et du coup, comme tout monde ouvert qui se veut être un monde ouvert moderne, on va justement, comme je disais, avoir plein de petits points d'intérêt, des petites quêtes. Des petits objets à récupérer,
mm-hmm.
des petits mini-jeux à réussir, des personnages, des petits renards, des petits oiseaux.
Les petits renards, on peut les caresser.
Et en fait, moi, ce qui fait la particularité du jeu par rapport à un monde ouvert plus classique, c'est l'intégration de toutes ces petites mécaniques du monde ouvert au sein de l'environnement.
Ouais.
En fait, ils arrivent. Je trouve plutôt bien à justement intégrer plutôt que d'avoir des petits points sur la carte, genre ici il y a un coffre, ici il y a une quête, ici il y a un petit truc, à plutôt les intégrer dans l'environnement et vous allez être amené par exemple à suivre le vent pour trouver votre prochaine destination, ou si vous croisez un renard, un petit renard, vous pouvez le suivre et il va vous emmener naturellement vers un truc à découvrir. Et pareil, il y a tout un système aussi avec des oiseaux
que vous pouvez
suivre pour atteindre certains points d'intérêt où vous allez pouvoir rédiger des haïkus, parce que pourquoi pas.
Ah bah ça reste un samouraï. Hein,
ça reste un samouraï, haïkus. Artiste, voilà. Et, Ou jouer de la flûte, ouais. Et en fait, toutes ces petites activités vont améliorer votre personnage et participer à l'exploration de l'île. Et qui est plutôt joli en plus, je trouve, que niveau graphisme c'est quand même la direction artistique du jeu est assez marquée avec une ambiance très portée sur les costumes, les décors. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai travail qui a été fait sur essayer de reconstituer un peu l'imaginaire qu'on peut avoir du du Japon médiéval dans les costumes, dans les
bah disons qu'autant autant les costumes forcément ils peuvent pas les retrouver là s'ils y vont. Par contre faut souligner que l'équipe s'est beaucoup rendue sur l'île de Tsushima et ça se ressent quand même sur la partie immersion, sur l'ambiance, sur le calme qu'on ressent dans certains lieux. Il y a vraiment une volonté de retranscrire ce que eux ont pu ressentir en y allant, et ça fonctionne. Enfin, moi, en tout cas, ça a fonctionné pour moi.
Ouais, je trouve que ça, pour le coup, si on doit parler des qualités du jeu, il y a toute une partie sur l'immersion qui est vraiment réussie. Mmh. En comparaison, par exemple, de plein d'autres mondes ouverts, je trouve que là, cette manière d'intégrer et ce qui a beaucoup fait parler quand le jeu est sorti, c'est l'histoire du vent.
Oui.
Qui est quand même, moi, je trouve une réussite. En fait, quand le plutôt que d'avoir une mini-map, enfin une mini-carte sur laquelle il faut se repérer avec un système de quasi-GPS où on est suivi à la trace pour retrouver l'endroit où on doit aller sur la carte, là, on peut choisir d'utiliser le vent. Donc en suivant la direction du vent, on peut suivre notre direction et l'endroit où on souhaite aller, par exemple... Quand vous voyez le vent souffler sur les arbres ou sur l'herbe, on voit la direction dans laquelle se penche l'herbe et on peut suivre comme ça, en regardant l'environnement, on peut suivre sa direction et bah ça rend tout de suite le truc beaucoup plus agréable quoi, que de se dire ok bon je suis mon tracé précis sans regarder autour de moi. Là on est forcé en fait de regarder l'environnement autour et je trouve que c'est plutôt réussi. Ouais.
Ouais pour ça c'est réussi. Voilà. Non mais il y a des non en vrai c'était ce truc de vent, moi ça m'avait un peu perturbé mais parce que trop l'habitude des mini cartes et en même temps c'était cool parce que c'est vrai que ça sortait de l'immersion ça au contraire ça te met plus dans l'immersion les cartes te sortent de l'immersion et là t'es bien dedans et puis le jeu est beau.
Ouais.
On va dire ce qu'il est.
Ouais ça c'est impressionnant
et c'est vrai que à l'époque, ma télé acceptait encore que je joue sur PS4 sur cet écran. Donc j'avais un grand écran. Et d'avoir un immense écran, enfin un grand écran avec juste le jeu et pas une petite mini-carte là, toute moche qui te brise l'image en bas à gauche ou en bas à droite selon les jeux. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Mais après, en lançant un autre jeu où la carte est apparue, j'ai dit, ah, en fait, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
C'est bien.
C'est plutôt bien fait, je trouve que la manière dont l'environnement devient vraiment un truc à conquérir, on voit toujours au loin quels sont les points d'intérêt vers lesquels il faut aller pour continuer son aventure. On est récompensé dès qu'on va sort un peu des sentiers battus pour trouver des petites choses. Et puis il y a plein de manières que le jeu a d'encourager. Je sais qu'il y a des tenues. Des vêtements, notamment je crois qu'une tenue qui s'appelle la tenue du voyageur qu'on débloque au début, qui nous permet d'avoir des indications visuelles sur où sont les trucs à explorer, enfin qui facilite en tout cas l'exploration, qui nous encourage à vraiment explorer l'île dans tous ces petits recoins, et je trouve que ça c'est vraiment une réussite quoi. Après on peut parler peut-être des points un peu plus compliqués.
Un peu plus compliqués.
Ouais.
Ouais, on peut. On peut. Je vais essayer de rester plutôt neutre. Ouais. Si je vais y arriver.
Non, mais après, il faut donner son avis, quoi. Je pense que c'est un jeu qui a des qualités et des défauts.
Moi, j'ai trouvé que ce soit les phases d'infiltration, les phases de combat, c'était mal équilibré déjà, à mon souvenir. Les phases d'infiltration, je les avais trouvées extrêmement simples, mais ça, c'est peut-être aussi parce que moi, je joue de base plutôt en infiltration sur la plupart de mes jeux, donc forcément, quand t'as l'habitude d'un truc, tu joues mieux. Alors que les phases de combat, et notamment plutôt les phases de duel, quand t'es vraiment en duel, les mini-boss, où là, on te demande une ultra précision pour des postures qu'on n'exige absolument pas de toi le reste du temps du jeu, ça m'a gonflé en fait, clairement. Mmh. Je préfère qu'on exige de moi une précision parfaite du début à la fin, plutôt que de pas me la demander forcément, et ensuite de me la sortir là d'un coup face à un mini-boss ou boss, et de me dire il faut absolument que tu fasses comme ceci, comme cela, et t'as pas le droit à l'erreur.
Oui, c'est vrai que bah, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais c'est vrai que y a des espèces de duels, en fait, des phases de, qui sont des combats souvent de boss ou de mini-boss, mais qui sont complètement déconnecté du monde, en fait. On se retrouve dans une arène fermée où on affronte un adversaire avec
en mode samouraï.
Ou pas forcément, ça peut être des on a des combats contre des Mongols aussi avec des lances, des trucs. Et là du coup le jeu presque devient un autre jeu parce que le système de combat change un petit peu du fait de se retrouver plus du tout dans un environnement où tu peux t'enfuir, tu peux te recacher, tu peux enfin il y a plein d'ennemis différents. Là, on se retrouve vraiment en face à face, et c'est vrai qu'il y a des. Enfin, moi, je sais que c'est une partie que j'ai bien aimée, mais il y a un côté vraiment, effectivement, un peu déconnexion des deux qui peut être un peu perturbant.
Cela dit, je pense qu'on peut, après 11 épisodes, et là, c'est le 12e, attester du fait que ce style de combat te correspond beaucoup plus qu'il ne me correspond à moi. Donc, est-ce que c'est surprenant que ça te plaise plus qu'à moi? Je pense pas.
Non, mais évidemment, je pense que c'est. C'est vraiment un truc pour le coup qui dépend de l'appréciation du gameplay, mais moi je trouve c'est vrai que d'un coup c'est
moi j'ai pas compris la première fois que je me suis retrouvé dans un combat
c'est
comme
étonnant,
ça pourquoi est-ce que je galère autant,
pourquoi d'un coup il demande d'être précis, en fait faut changer de le ça va te demander de changer limite de tu sais de déclencher un truc dans ton cerveau en mode ok là je suis dans un duel donc il faut que je me batte de telle manière. Alors que dans le reste du jeu, a priori, t'as pas forcément besoin d'avoir ce niveau de précision, c'est vrai. Donc c'est ça fait partie des éléments du jeu qu'ils ont travaillé, mais que je trouve quand même intéressant. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jeu qui a
pas mal de personnages secondaires. C'est vrai qu'on les a pas forcément
présentés. Bon après,
parce que de toute façon, je m'en rappelle pas. Mais à part un seul personnage que j'ai apprécié, c'est le seul personnage que j'ai apprécié dans le jeu. Mais il y a quand même beaucoup de personnages secondaires et qui nous montrent aussi que Tsushima a une grande histoire.
Oui.
Avant l'invasion mongole.
Oui, bien sûr.
Parce que Jin, pour sauver son oncle et sauver Tsushima, va quand même s'allier avec pas mal de personnes, dont notamment des anciens samouraïs qui sont sortis.
Ouais, les chapeaux de paille, là.
Oui, les ronins, je crois que c'est ça.
Oui, c'est des ronins.
Mais même, il y a une ancienne samouraï qui arrête de se battre, je crois, qui reprend les armes après que sa famille ait été massacrée.
Je sais plus son nom.
Après que sa famille a été massacrée, elle revient, enfin, elle accepte de se battre à nouveau, alors qu'elle, elle était juste dans son environnement, quoi. Elle voulait plus être là-dedans. Des voleurs aussi, enfin, une voleuse notamment. Beaucoup de personnages secondaires qui vont étoffer le jeu. Bon, beaucoup de quêtes aussi, et ça, c'est le monde ouvert qui veut ça, hein, de toute façon, heureusement. Et puis un jeu qui, comme on l'a dit, le vent permet d'explorer en sortant de l'immersion de la carte. Et je trouve que, comme en plus il est très beau, ça donne envie d'aller explorer.
Oui,
parce
carrément.
Qu'il y a d'autres jeux où t'es là, je sais pas spécialement. Et là, t'es, oui, mon objectif, il est de ce côté-là, mais j'ai quand même un petit peu envie d'aller voir.
Bah, je trouve que t'as vraiment ce truc de, comme tu te disais, t'as pas cette mécanique de quête annexe où tu vas faire les quêtes les unes après les autres, sans trop réfléchir, où en fait, ce qui va être intéressant, c'est la quête en elle-même. Là, tu prends vraiment plaisir à, repérer où c'est sur la carte et juste te balader pour y aller.
Ouais.
Et je trouve que ça, c'est vraiment la force du jeu. Et je trouve que sur les quêtes secondaires, tu disais, les personnages secondaires, vu en fait les quêtes, on va suivre à chaque fois le récit d'un personnage.
Oui.
Et en fait, on va le suivre en quête secondaire du début du jeu quasiment jusqu'à la fin du jeu.
C'est vrai.
Et du coup, c'est un personnage qu'on va revoir souvent, avec qui on va avoir une histoire, une relation en fait, qui va s'étoffer au fil du jeu. Et j'ai trouvé que cette manière de faire des quêtes secondaires était intéressante parce que ça sortait du truc où on se retrouve au milieu de nulle part avec un personnage qu'on connaît pas du tout, qui nous raconte un truc et faut qu'on fasse sa quête, on sait pas pourquoi. Là, on se retrouve avec des personnages qu'on va rencontrer et puis qu'on va suivre tout le jeu. Et qui vont être nos amis, en fait, nos frères d'armes, quasiment,
frères et sœurs
d'armes. Et en fait, on va devoir faire des quêtes avec eux, mais quelque part, c'est logique, parce que ils deviennent nos proches, donc
bien sûr,
c'est
ouais.
normal d'être avec eux. Et je trouve que cette manière d'intégrer les quêtes secondaires était cool. Et ça sortait un peu du truc classique de « Oh là là, des brigands ont enlevé ma fille, nanani, faut aller les libérer. »
Il y a forcément des quêtes un peu secondaires de ouais. « Oh, on m'a volé tel truc, ouais, il faut aller me le récupérer. »
Bon, okay. Vous n'y échapperez pas.
Super, pas de soucis, je vais aller te récupérer ton chapeau de paille à la con alors que t'aurais pu en refaire un, mais il n'y a pas de soucis vu que c'est l'héritage.
Mais c'est le chapeau de paille de son père qui lui a donné.
Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On en achète un au marché du coin, c'est exactement le même, il s'en rend pas compte, d'accord ? Bon, mais là, c'est vrai que ces personnages, il y a quelques là de tête, j'en ai trois, mais je pense qu'il y en a peut-être un.
Ouais, il y en a cinq ou six, mais au moins, ouais. Mais je me rappelle.
Mais je me rappelle pas de tous en réalité, mais c'est vrai que on les rencontre. Il y a l'ancien mentor aussi, je crois, de Jean. Enfin, il y a tout un truc de, on retrouve des gens d'avant. J'ai bien connu votre père, j'ai bien connu votre oncle. Des vrais personnages qui s'insèrent réellement dans le récit et puis qui aident à comprendre, enfin qui aident les décisions, qui aident Jean Sakai à prendre des décisions parfois assez intéressant. C'est vrai que là pour le coup ces quêtes annexes là c'était pas le récit principal, mais sous certains aspects, moi j'ai trouvé que ça l'était aussi.
Ouais, bah oui, parce que il y a pas de, en fait il se perd pas dans des milliers de quêtes secondaires. Tu vois, qui n'ont aucun lien entre elles, quoi. Il y a vraiment ce côté suivi du récit, du début à la fin. Donc, l'histoire de Jean, mais aussi l'histoire des personnages qui, ensemble, créent un peu l'histoire du jeu, mais pas de manière complètement déconnectée les unes des autres, quoi. Tout est lié, tout bouge en même temps. Et les éléments qui se passent dans une quête vont avoir de l'influence sur les autres.
Ouais, totalement.
Et ça va avancer comme ça, ensemble. Et je trouve que c'est vraiment une bonne, enfin, c'était vraiment chouette à suivre comme ça. Et c'est un jeu aussi qui est plein de références cinématographiques, pour passer à un autre point. Moi je sais que j'ai, en tant que fan, non pas fan, mais en tout cas en tant que client des films de samouraï, des films de sabre de Kurosawa par exemple, il y a un mode dans le jeu qui fait partie un peu de la direction artistique générale du jeu, qui s'appelle le mode Kurosawa, qui met un filtre sur l'image. Je sais pas si tu l'as beaucoup utilisé, toi.
Par curiosité, je l'ai utilisé, mais plus dans les phases où je me baladais. Pas dans les phases de combat. Bah, ou...
Dans certaines phases de combat, ça nuit, je trouve, un peu à la visibilité.
Okay. Bon, bah, j'ai bien fait, du coup. Mais oui, c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Moi, ça m'a vachement impressionné comme travail.
En fait, c'est quoi, c'est en noir... Ça fait un noir et blanc et un espèce de grain un peu vieux cinéma. Oui. Pareil, au niveau du son, il y a une espèce de truc dans le son qui fait que ça se transforme. Enfin, ça fait un peu vieux cinéma des années 60, quoi. 50-60. Et je trouve que c'est gadget, et en même temps moi j'ai trouvé ça trop cool, et j'ai fait je me suis beaucoup amusé en fait à mettre en scène mon personnage genre film de samouraï, mais comme un enfant. Mais j'ai trouvé ça super cool.
J'imagine Blaise dans son salon. Waouh.
Mais oui, parce que tu joues dans les films que t'as regardé, et clairement
oui,
je trouve que c'est vraiment une réussite du jeu. Ils ont réussi leur pari sur comment bien essayer d'adapter. Après, bon, ça reste... j'ai trouvé, si on revient un peu sur l'histoire et sur les défauts, quand même l'histoire un peu bas du front, sur les Mongols, machin. Enfin, je trouve que...
Pas une imagination dingue, quoi.
Non. Ce qui est intéressant, c'est toute l'histoire de Jean sur, justement... devenir un paria en brisant le code le code d'honneur, ou ne pas le faire, est-ce que la fin justifie les moyens, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a ce truc là est intéressant, mais l'histoire générale de l'invasion des Mongols machin, je trouve que c'est pas forcément c'est vraiment une toile de fond en réalité. Pas, vous allez pas jouer pour savoir qui gagne à la fin et qu'est-ce qui se passe avec les Mongols, quels sont les retournements de situation, quoi.
Pas trop,
juste un très méchant Kublai Khan qui a envie de tuer tout le monde. Point.
C'est à peu près ça, ouais. Moi, c'est vrai que pour parler un peu plus frontalement, c'est pas un jeu qui m'a vraiment qui m'a transcendé, loin de là. Je l'ai un peu terminé en me disant si je dois vraiment reprendre ce que j'ai pu noter là, c'est je vais rien écrire, j'ai décidé de rester poli, ou il y a un seul personnage que j'estime avoir un peu plus de charisme qu'une huître. Donc c'est pas, pour reprendre plus sérieusement quand j'y ai joué, ce qui m'a beaucoup, il y a plusieurs choses qui m'ont gêné. Déjà, le jeu s'appelle Ghost of Tsushima, donc pour moi c'était logique qu'on devienne le fantôme. C'était même pas, il y avait pas de, alors oui, il y a des choix, etc. Sauf que oui, c'est pas un jeu à choix avec des conséquences derrière.
Pas du tout.
Du coup, le jeu ne prend pas en compte nos actions finalement. C'était du, dans telle phase, tu peux la jouer bourrin, mais bon, c'est pas le jeu qui va t'aider là-dedans. Donc, vaut mieux y aller de manière secrète, de manière effectivement sneaky, je trouve plus le mot en français. Enfin, de manière fantôme, quoi.
Discrète.
Discrète, oui. Ouais. Et donc, faut utiliser le côté fantôme de Jin. Pour moi, c'était logique. Enfin, je veux dire, le fantôme de Tsushima. Sauf que à chaque fois, il a la voix de son oncle qui dit le code d'honneur du samouraï et machin. Et est-ce que mon oncle va me pardonner et trucs et bidules. Et en fait, gars, désolé, mais vous avez été massacrés parce que vous étiez 80 pélos pour plusieurs centaines de mongols. Donc oui, en fait, il y a un moment, si tu veux, tu peux pas y aller de front parce que concrètement, on a beau être dans un jeu vidéo, c'est pas crédible, c'est pas possible. Donc oui, il va falloir que tu tues quelques mongols, pardon, de manière peu conventionnel, c'est peu honorable. Oui, oui, le code d'honneur de samouraï, on va l'oublier. Donc ça, déjà, ça m'a saoulé assez vite, à vrai dire. Je crois dès la première phase où on t'explique comment utiliser le mode fantôme, est-ce que mon oncle me pardonnera et ce n'est pas le code d'honneur des samouraïs. Oh, si vraiment vrai tu vas me faire ça tout du long.
Au début, il y a une grosse emphase là-dessus, puis après, ça passe un petit peu, je trouve quand même. Au bout d'un moment, c'est un peu moins central, mais c'est vrai qu'au début, c'est constant.
Ça passe, sauf que, et là j'arrive sur le point des orages, les orages dans le jeu, alors moi j'y ai joué avant le patch qui je crois a réglé ça, mais plus tu jouais en mode fantôme, plus il y avait d'orages dans le jeu.
Ah ouais? Je savais pas du tout.
Mais oui, et enfin
ok.
En tout cas, moi j'ai eu ce problème là, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont eu ce problème parce que c'était insupportable, j'ai vérifié, et donc tu avais plus d'orages, et donc tu devais jouer de la flûte toutes les 3 secondes pour enlever un peu l'orage, parce que sinon t'avais toujours l'espèce de tonnerre là en arrière-plan, et c'était insupportable. Et quand j'ai su que c'était parce que plus tu jouais fantôme, alors après le patch a réglé ça, peut-être que sur la fin je l'avais plus.
Peut-être qu'ils ont équilibré le truc, mais ok, je savais pas, j'ai pas du tout fait attention à ça,
c'était
je savais pas du tout.
C'était insupportable pour moi. Vraiment, ça m'a énervé, ça m'a sorti du truc. Dans ce cas-là, appelez pas votre jeu Ghost of Tsushima, trouvez un autre nom.
Ouais, mais c'est pour jouer sur l'attention du truc, quoi.
Enfin, je ne sais pas. Et donc là-dessus, ouais, ça m'a, je dirais pas jusqu'à dire que ça m'a déplu, mais disons qu'il y a eu un moment où j'étais beaucoup plus concentrée à reconnaître les voix des acteurs de doublage que à vraiment profiter du jeu. Parce que je suis une grande fan de tout ce qui est acteur de doublage, donc du coup, je dis « Ah, mais je le connais, lui !»« Bah oui, évidemment, je le connais, c'est machin !»« Ah, mais je le connais !»« Ah bah oui, on l'entend dans tel film et dans tel... » Voilà.
Ah, vrai que la mise en scène et l'acting a tendance un peu, au bout d'un moment, à... Enfin, on se rend compte que oui, c'est pas... Enfin, je pense que c'est pas un jeu avec un budget aussi important que certains gros... notamment ouais God of War ou The Last of Us où oui c'est sûr que tout l'aspect mise en scène reste quand même assez en deçà de ce qui peut être fait ailleurs. En fait la force du jeu est pas là quoi. En gros je pense que si vous aimez tout ce qui est immersion exploration, il y a un intérêt et puis même l'univers japonisant médiéval tout ça. Mais c'est vrai que si vous attendez une histoire hyper riche, dense, avec plein de personnages, bien écrite, tout ça, c'est sûr que c'est pas forcément vers ça qu'il faut se vers ça qu'il faut
là-dessus,
se diriger.
Là-dessus, ça pêche un petit peu. Bon, après, c'est aussi parce que moi, je suis très exigeante sur tout ce qui va être narration. C'est un peu... Je joue, je lis, je regarde des films pour ça. Donc, forcément, j'aime que la narration soit bien travaillée. Mais là, j'avoue qu'à la fin... J'étais, bon, est-ce que je vais terminer tous les camps de bandits, de Mongols et tout? Je dis non. Non, c'est bon. En fait, là, Jin, qui est tout triste parce que le code d'honneur des samouraïs et tout, non. J'en ai marre. C'est, tant pis. Tant pis pour Tsushima. Tsushima ne sera pas,
Tsushima ne sera pas sauvé.
Tsushima aura encore quelques camps mongols, d'accord?
Tant pis pour toi, Jin. Non, mais oui, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est un jeu qui a pas, je trouve qu'il y a des vraies qualités.
Oui.
Mais c'est sûr que il y a des choix qui ont été faits pour privilégier certains aspects et pas d'autres, et que oui, bah évidemment que c'est ni l'histoire ni les dialogues qui sont au cœur du jeu. Moi, j'aimerais juste pour finir la discussion en placer une pour la composition musicale du jeu et la musique en général qui est vraiment pour le coup extraordinaire. Il y Il y a des il y a vraiment des musiques qui vont rester qui restent quand même après dans la tête. Enfin, je trouve que sur ça c'est assez impressionnant, d'autant plus que c'est fait par des gens qui étaient pas forcément des grands noms de la musique de jeux vidéo en tout cas à ce niveau-là, orchestral, tout ça. Donc Ilan Eshkeri et Shigeru Umebayashi, donc ils sont deux, un japonais et un américain, qui ont travaillé ensemble sur la musique du jeu
qui est vraiment bonne.
Très très bien, et n'hésitez pas, même si vous vous plongez un peu dans l'univers du jeu, à aller l'écouter, parce que franchement ça vaut le coup. Et puis voilà, c'était mon mot de conclusion.
Non, enfin, mais c'est vrai que la musique était vraiment bien, et quand il ne parlait pas, c'était agréable. cet épisode et pour un peu parler de l'après Ghost of Tsushima, bon déjà c'est quand même c'est un très beau jeu, après on aime ou on n'aime pas, ça c'est toujours pareil, c'est la perception de chacun. Moi j'ai pas spécialement aimé l'histoire, mais en soi c'est un très bon jeu.
Ouais ça reste une réussite quoi, réussite si vous aimez un petit peu, ouais, comme on disait, l'exploration, faut y aller quoi.
Exactement, je dirais pas si vous aimez Assassin's Creed jouez-y, parce que je pense que ça a de meilleure qualité que Assassin's Creed.
Oui carrément.
Mais voilà. Donc on a eu une version Director's Cut sur PS4 et PS5 qui raconte une histoire supplémentaire sur une autre île et qui a ajouté le mode multijoueur Legends. Alors après moi je joue pas en multi, donc j'ai pas du tout testé
non plus.
On n'est absolument pas des joueurs multi dans ce bureau, c'est formidable. Rien n'est officialisé en tout cas quand j'ai vérifié le truc. Alors j'adore, il y a un State of Play ce soir, tu vas voir qu'ils vont l'officialiser. Ah, à chaque fois il y a des trucs comme ça.
Donc c'est State génial. Of Play spécial Ghost of Tsushima ce soir, Ghost of Tsushima 2.
Non, normalement c'est plus VR, mais à chaque fois ou presque il y a eu des annonces juste après qu'on ait enregistré un épisode, j'étais ravie.
C'est la malédiction. Ouais.
Donc rien n'est officialisé, mais des rumeurs semblent dire qu'une suite va être dans les tuyaux, enfin est dans les tuyaux. Et puis on parle d'un film. Par le gars qui a fait les John Wick, qu'on apprécie ou pas les John Wick.
Je souffle. Hein. Et comme on disait, comme je disais même avant même d'enregistrer, faire un film basé sur un jeu vidéo qui s'inspire autant de cinéma, bon, je...
C'est-à-dire que d'autres s'y sont essayés, quoi.
Je vois pas comment ça peut bien finir, mais bon.
Pour l'honneur, j'ai regardé Uncharted, j'ai regardé Tomb Raider, les films. Uncharted est mieux que Tomb Raider.
Ok. T'as vu l'Assassin's Creed aussi ?
Non, j'ai pas envie.
Je crois qu'il est vraiment catastrophique.
J'ai pas envie.
Ouais, moi non plus.
Voilà. Mais bon, bref, les adaptations. En série, ça passe pas trop mal, The Last of Us, mais bon, voilà. Et puis, sinon, le jeu, de toute façon, il est disponible à la médiathèque.
Ouais, on a deux exemplaires, d'ailleurs.
On a deux exemplaires,
version PS4 classique et la version Director's Cut.
Mm-hmm.
Donc si vous voulez essayer, en tout cas les deux versions sont dispo, donc faut pas hésiter à venir à la médiathèque Boris Vian
à Chevilly-la-Rue.
Voilà.
Director's Cut, je crois qu'en plus c'est celle où il y a la mise à niveau PS5.
Oui.
Par contre, il me semble qu'elle est payante la mise à niveau. Nous on n'a pas la. Ah peut-être qu'ils ont.
Je crois pas.
Non. Ah, ok. Parfait.
Enfin quoi que. Après Sony c'est toujours un peu flou.
Ouais. Je sais plus.
Mais c'est possible que la mise à niveau soit quand même payante.
Normalement, on peut conclure. Merci de nous avoir écoutés.
Merci de nous avoir écoutés.
Comme vous le savez, c'est disponible à peu près partout. Et le prochain épisode, normalement, il y a Franck.
Ouais.
Et ce sera
aussi
nouveau...
parler d'un jeu PS.
Oui.
Aïe. Bon, un jour, on parlera d'autre chose.
Ouais. Promis, on va changer de console. Je sais pas quand, mais on va changer.
Allez,
à bientôt.
À la prochaine. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez testé le jeu. À bientôt pour un autre épisode de Point de Sauvegarde et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder.